En ce jour-là, Marie s'est mise en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant tressaillit d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles que lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit exulte en Dieu, mon Seigneur, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi de merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse le superbe. Il renverse le puissant de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches le main vide. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. » Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Alléluia, gloire à toi, Seigneur, Alléluia, Alléluia. La fête de l'Assomption que l'Église souligne est au départ un dogme. Un dogme, c'est une vérité absolue que l'Église accepte en tant que telle, non pas comme un fait, mais comme une vérité. L'Église comprend que Marie, pour avoir été la mère du Seigneur, pour avoir porté le Sauveur de l'humanité, devait finir sa vie de cette façon-là. Et l'Église en a fait une vérité absolue qu'on appelle le dogme. Mais qu'est-ce qui est le plus important au-delà du dogme en cette fête de l'Assomption? Je voulais juste méditer avec vous quelques points de la vie de Marie. Je considère l'Assomption, pour ma part d'abord, comme le résultat de la fidélité d'une vie de foi. Comme le résultat, c'est-à-dire que la conséquence, la fin de le résultat, la fin de ce qu'on a déployé tout au long de sa vie. Et quand on considère en fait la vie de Marie, je voulais vraiment souligner quelques points. Le premier point, c'est d'abord sa disponibilité à devenir la mère du Sauveur, son oui. Son oui qui est devenu pour nous croyants vraiment un modèle de foi. Marie avait un projet, elle devait se marier avec Joseph et elle était encore vierge, une jeune fille. Elle était dans une culture où on savait que si tu avais commis l'adultère, tu devais mourir par lapidation. C'est-à-dire, on va aller te jeter des pierres. Et Marie venait de recevoir le message de l'ange Gabriel qui la sollicitait d'être la mère du Sauveur. Elle demandait comment cela allait-il se faire parce qu'elle n'a pas connu d'homme. On dit non, ça ne sera pas par Joseph, mais ça va être par la puissance de l'Esprit Saint. Son ombre te couvrira et alors tu seras enceinte. Marie dit alors, si tel est le cas, j'accepte. Mais en acceptant, c'était un risque qu'elle avait pris. Il y avait d'une part sa foi, que parce que Dieu vient la solliciter, Dieu va la protéger, l'épargner du danger. Mais sur le plan humain, il y avait cette peur-là d'être lapidé. Mais quand Joseph allait apprendre qu'elle est enceinte, qu'est-ce qui allait se passer? Comment elle allait convaincre Joseph qu'elle n'a pas connu d'homme? C'est là qu'on voit vraiment la grandeur du oui de Marie devant une situation où tout n'était pas clair, où tout n'était pas rose, où il y avait des conséquences graves à travers son oui, mais elle dit quand même oui. Elle dit oui à la promesse, à la demande de Dieu. Ce oui-là, c'est d'abord le point de départ de la vie de Marie. Voilà pourquoi nous avons de la considération pour elle, parce que par son oui, Marie est devenue un modèle de foi pour nous, les chrétiens. Un oui extraordinaire, comme je vous dis, parce que ça sort vraiment de situations, de contexte ordinaire. Nous sommes appelés dans notre vie de foi de tous les jours, souvent à dire oui. Ce n'est pas évident. Ce matin, vous avez dit oui. Il fait beau dehors, vous aurez pu aller vous promener, mais vous avez dit oui. Vous avez sacrifié quelque chose. Et c'est ce que Marie a fait. Il a sacrifié quelque chose en disant oui au Seigneur. Ça, c'est le premier point, le premier élément qui est la base de ce que nous célébrons aujourd'hui, le oui de Marie. Tout commence par cela. Deuxièmement, je pense que c'est, j'allais dire, l'humilité de Marie. Marie est vraiment humble. Quand bien même le Seigneur vient lui dire qu'elle va devenir la mère du Sauveur, le nom que vous donnerez à l'enfant, ça sera Jésus. En d'autres termes, Dieu sauve. Elle savait cela. Elle aurait pu s'enorgueillir. Dire, bah écoutez là, hein, je ne suis plus comme les autres femmes, vous savez, hein, respectez-moi quand même. Non, Marie a continué sa vie comme de rien n'était. Elle a continué sa vie comme de rien n'était. Et on voit ici, c'est elle qui va visiter sa cousine Élisabeth. Bien qu'elle sait qu'elle porte le Sauveur du monde, cela ne l'empêche pas de faire ce voyage avec humilité pour aller visiter sa cousine qui est plus âgée qu'elle. Le droit d'aînesse dans la société juive, elle respecte encore son aînée qui était Élisabeth. Donc, elle demeure humble, quand bien même elle est bénie entre toutes les femmes, elle demeure humble. Et remarquez, ce n'est pas elle qui va le dire. Elle vient, elle salue Élisabeth. Élisabeth, c'est Élisabeth qui reçoit la révélation et dit, quel honneur j'ai de te rencontrer, de te recevoir chez moi, toi qui es bénie entre toutes les femmes. Mais ce n'est pas Marie qui le dit, c'est Élisabeth qui le dit. Quand bien même elle est bénie entre toutes les femmes, Marie demeure humble. L'humilité, c'est très important dans notre vie de foi, en tant que chrétien. Les responsabilités que nous recevons de l'Église et dans l'Église, les dons, les talents différents que nous recevons de l'onction de Dieu ne doivent pas nous enfler, ça doit nous demeurer dans l'humilité. Parce que tout vient de Dieu, nous n'en sommes absolument rien. Dieu lui-même choisit qui il veut, quand il veut, comme il veut et où il veut. Et quand il choisit quelqu'un, de la poussière, il l'élève. De sorte que cette personne, quand il a des talents, il ne puisse pas dire « C'est à cause de moi que cette personne a été guérie. C'est à cause de moi que cette personne a connu le Christ. C'est à cause de moi, non. » Qu'il puisse dire « Moi-même, Dieu est venu me chercher dans la poussière et il m'utilise juste comme un instrument. » Et c'est ça que Marie comprend. Elle va elle-même dire « Il élève les humbles » dans son Magnificat. Marie rappelle cela. Dieu élève les humbles. En disant cela, en fait, elle le dit pour elle-même parce qu'elle se considère, parce qu'elle comprend qu'elle doit marcher dans l'humilité. Le choix que Dieu fait de nous ne doit pas nous enorgueillir. Le fait d'être catholique ne doit pas nous amener à mépriser les autres. Nous devons demeurer humbles. Nous devons marcher dans l'humilité. C'est vraiment une grâce, si nous ne l'avons pas, que nous devons demander à Dieu de demeurer dans l'humilité, de marcher dans l'humilité. C'est vraiment une grâce qu'il faut demander aujourd'hui en particulier, en cette fête où nous soulignons l'humilité de Marie. Le troisième élément que je voulais souligner à travers cette fête, c'est le soutien de Marie. Quand vous remarquez dans la vie de Marie et Joseph, Marie est préoccupée par l'éducation de Jésus. Jésus est encore enfant. Marie détient le secret. Elle est en train d'observer. Mais elle ne laisse pas Jésus comme ça. À tout moment, on le voit intervenir par moment. Elle va venir à un moment donné, Jésus disparaît. Elle vient avec ses frères, les autres, pour chercher Jésus. Et on vient dire à Jésus, ta mère et tes frères sont là, en train de te chercher. Elle est préoccupée par Jésus. Elle va le soutenir. Quand Jésus va disparaître après le voyage de Jérusalem, on voit Marie préoccupée à aller le chercher. Il est là en train de soutenir son fils. Il est là en train de soutenir son fils. Le soutien, c'est très très important comme attitude dans nos amitiés, mais aussi dans notre relation de foi. Nous devons soutenir Jésus. Nous devons soutenir l'œuvre de Jésus. Un enfant de Dieu, c'est celui-là. La mère de Dieu, c'est celle-là qui soutient l'œuvre de Jésus. C'est cela Jésus qui va dire, qui est mon frère, qui est ma sœur. C'est lui qui fait la volonté de mon Père. C'est lui qui soutient l'œuvre du Père que je suis en train d'accomplir ici sur la terre. Marie a soutenu l'œuvre de son fils. Même si elle était la mère, mais elle soutenait l'œuvre de son fils parce qu'elle savait qui était son fils. Nous devons apprendre vraiment dans notre vie, comme chrétiens, comme croyants, nous ne pouvons pas simplement prier Dieu, mais nous devons aussi soutenir l'œuvre de Dieu ici sur la terre. Et c'est ça, la fête de l'Assomption nous rappelle cela. Le chrétien, c'est celui qui soutient, c'est celui qui soutient la cause du Christ, c'est celui qui soutient l'œuvre de Dieu. Donc, vraiment, c'est cet élément que je voulais aussi souligner dans le cheminement de Marie. Et enfin, pour terminer, il y a beaucoup d'éléments. Je veux dire, par rapport à Joseph, l'avant-dernier élément, c'est vraiment le respect que Marie a et la considération. Le respect et la considération. Même si l'enfant qu'elle a porté n'était pas directement l'enfant de Joseph, mais on voit Marie a beaucoup de considération envers Joseph. Cela ne l'empêche pas vraiment d'être dans cette attitude-là, humble, mais aussi avec beaucoup de considération, beaucoup de respect, respectueuse par rapport à Joseph. On ne raconte pas beaucoup de récits, beaucoup d'histoires sur la relation de Marie et Joseph, mais on peut simplement le discerner à travers, par exemple, le retrouvaille de l'enfant Jésus. Quand Marie parle à Jésus, comment elle parle? Elle dit ceci, « Mon fils, pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi avons souffert en te cherchant. » Pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi. Ça, c'est de la considération. Elle aurait pu regarder comment elle commence. Mon fils, elle aurait pu continuer en disant, pourquoi tu m'as fait cela? Pourquoi tu m'as fait cela? Elle aurait pu dire cela. Mais elle prend soin, par respect, parce qu'elle est accompagnée de Joseph. Elle prend soin de l'associer dans cette œuvre. Pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi. Ton père et moi. Beaucoup de respect, beaucoup de considération envers Joseph. Donc, le fait d'être la mère du Sauveur n'enlève en rien l'humanité de Marie. Elle reste une femme qui respecte sa tradition, sa culture, où on avait beaucoup de respect pour l'aîné, mais aussi beaucoup de respect pour son mari. Et Marie va vivre dans cette attitude de respect envers Joseph. C'est cette attitude, je voulais souligner, qui entre dans le cheminement de la vie de Marie. Et enfin, la fidélité. La fidélité à son fils. Et marqué, Jésus marche maintenant à la fin de sa vie. Il est persécuté et il est chargé d'une croix. Et finalement, ses disciples vont l'abandonner. Ils vont s'enfuir. Et on marque la présence de quelques femmes. De quelques femmes qui sont toujours là en train de suivre Jésus. Il y a Marie de Magdala, il y a Marie Madeleine et il y a Marie la mère de Jésus. Elles sont là en train de suivre Jésus. Sur le chemin de la croix, Marie est là. Elle est là en train de suivre son fils. Elle est là encore sous la croix à la mort de son fils. Elle est là. Jusqu'à la fin de la vie de son fils, Marie est là. Elle est là à la fin, portant dans ses bras cet enfant qu'elle a vu naître de son corps, de son sein. Elle est là en train de porter dans son bras un corps mort, inanimé. La douleur d'une femme, la douleur d'une mère. Elle est restée fidèle jusqu'à la fin, jusqu'à la mort de son fils. Cette fidélité est très importante. Nous sommes dans une culture et dans une époque où on devient de plus en plus infidèle dans les relations réciproques, dans nos amitiés, dans nos mariages, dans nos paroles données. On n'est pas souvent fidèle à cela. C'est important de souligner la fidélité de Marie en cette fête, parce que vraiment c'est très important d'être fidèle. C'est dans la fidélité qu'on reconnaît les vrais amis. Et la parole de Dieu dit « Dieu est fidèle envers ceux qui lui sont fidèles » dans les livres de Nombre 23, verset 26. « Dieu est fidèle envers ceux qui lui sont fidèles. Il est pur envers ceux qui lui sont purs. » Et c'est ça vraiment que Dieu est. Et il va le dire d'ailleurs dans l'évangile de Matthieu 25. « Tu as été fidèle dans de petites choses, entre dans la joie de ton maître. » La fidélité, c'est vraiment une vertu que nous avons besoin de rechercher, de demander, une grâce que nous devons demander à notre Dieu, la fidélité. Aller jusqu'au bout de notre parole donnée, aller jusqu'au bout de notre amitié, aller jusqu'au bout de notre amour, aller jusqu'au bout de notre engagement, la fidélité. Nous en avons besoin aujourd'hui. Nous en avons besoin aujourd'hui. Aller jusqu'au bout de notre foi. Combien de gens ont abandonné leur foi? Combien de gens ont abandonné leur église parce qu'ils n'ont pas pu marcher dans la fidélité? Marie nous apprend aujourd'hui qu'on peut demeurer fidèle même jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort. Devant la mort de son fils, Marie est demeurée fidèle. Et remarquez, même après la mort de son fils, elle est demeurée fidèle à l'œuvre de son fils. Elle continue encore, après la mort de Jésus, à aller se rencontrer, à aller se regrouper avec les apôtres. Elle est là, mais elle ne prend pas la parole, remarquez. Elle est là dans l'humilité. Elle a fait son rôle. Elle a joué son rôle. Elle a rempli sa mission. Elle est là simplement dans l'humilité, laissant les apôtres faire leur travail. Mais elle est là avec les apôtres. Elle est là le jour de l'effusion, le jour de la Pentecôte. Marie est là. Dans la fidélité, elle est là. Ce sont ces éléments que je viens en fait de développer en peu de mots qui font en fait que à la fin de sa vie, Marie mérite cette gloire, de partager la gloire de Dieu. Cette parole que Dieu dit, entre dans la joie de ton Père, nous pouvons dire entre dans la gloire de ton Père. C'est la conséquence d'abord d'une vie de foi. C'est la conséquence d'abord de son oui. C'est la conséquence de son obéissance. C'est la conséquence de son appui. C'est la conséquence de son humilité. C'est la conséquence de sa fidélité. C'est tout cela qui devient ce que nous appelons aujourd'hui la gloire de Marie. C'est pas quelque chose. C'est pas juste parce qu'elle était la mère de Jésus. Non, c'est pas juste ça. Mais c'est d'abord parce que toute sa vie est tissée sur des valeurs qui s'appuient d'abord sur le principe biblique. Et la conséquence, c'est qu'elle peut partager la gloire de Dieu. Nous qui célébrons la fête de l'Assomption aujourd'hui, quel est le message que nous pouvons retenir? C'est que la Bible nous dit, nous sommes les citoyens des cieux. Nous sommes faits, notre destinée, notre destination finale, c'est le ciel. En d'autres termes, nous aussi, nous pouvons marcher sur cette terre tout le temps d'abord en étant obéissant à Dieu, à sa parole, à dire oui, nous aussi comme Marie. Nous devons marcher sur cette terre parce que nous sommes des chrétiens en soutenant l'œuvre de Jésus. Nous devons marcher dans l'humilité, recherchons cette humilité, nous devons marcher dans la fidélité. Quand nous marchons dans tout cela et que nous en faisons de valeur quotidienne de notre vie de foi, alors nous pouvons nous aussi aller dans l'assurance et mourir dans l'assurance que même déjà le jour de notre mort, nous passons déjà de la mort à la vie, nous passons déjà de la mort à la gloire de Dieu. Nous pouvons préparer le ciel sur la terre. Nous pouvons préparer la gloire de Dieu dès ici, maintenant, sur la terre. C'est ce que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait. je passerai mon ciel sur la terre en faisant le bien. » Chers frères et sœurs, faisons le bien, marchons sur le pas de Marie, parce que Marie a marché selon le principe de la Bible. Amen.